Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Kiran Jessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Pierrick Monsigny. Le vaccin contre Ebola n'a pas encore été trouvé, mais manifestement, la recherche avance à grands pas depuis que le virus menace de ne plus se limiter au seul continent africain. Le groupe Merieux a mis au point un test de diagnostic rapide. En Suisse, d'ici la fin de la semaine, ce sont les premiers tests d'un vaccin qui vont être réalisés. Alors, l'investissement est important. Quel sera le prix proposé ? À cette question posée par le journal Nice Matin, voici ce que répondait fin septembre le professeur Jean-François Saluzzo, spécialiste des maladies virales émergentes chez Sanofi Pasteur. Nous nous engageons à fournir tous ces produits à prix coûtant en les acheminant sur place. Le but n'est pas le profit. Alors, il n'y a pas de raison de douter aujourd'hui de la sincérité de ces propos, mais on ne saurait en faire une généralité s'agissant de la politique tarifaire menée par les laboratoires pharmaceutiques. Le profit maximisé, c'est bien ce qui semble guider les Américains de Gilead via la commercialisation de Sovaldi, un traitement contre l'hépatite C dont le haut niveau d'efficacité ne suffit pourtant pas à expliquer le prix élevé, autour de 50 000 euros pour une cure de 3 mois, sachant que la population ciblée est large, au moins 100 000 patients rien qu'en France. Alors voici donc deux cas très différents mais qui semblent défier la logique économique. Mais en matière de médicaments, comment définir cette logique ? La production de nouveaux médicaments doit-elle se faire à n'importe quel prix ? C'est notre sujet du jour. Et ils seront trois ce soir pour en discuter. Éric Bazeillac, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le représentant du LEM, les entreprises du médicament, c'est-à-dire les entreprises du secteur de l'industrie pharmaceutique en France. Vous y dirigez les affaires économiques. Vous êtes par ailleurs médecin et vous avez fait partie de votre carrière dans les laboratoires pharmaceutiques. Pour discuter avec vous ce soir, Jean-Paul Vernant, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite d'hématologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, auteur d'un rapport remis au gouvernement à l'été 2013. C'était dans le cadre du troisième plan cancer qui a vu le jour quelques mois plus tard. Vous avez notamment publié une tribune dans Libération, c'était en juillet dernier, intitulée « Médicaments à quand un juste prix ?» Notre troisième invité, Claude Le Pen, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste de la santé, professeur à l'université Paris-Dauphine. Vos travaux portent notamment, pas seulement, mais notamment sur l'économie de l'industrie pharmaceutique. Alors ce soir, on se pose donc la question de savoir s'il faut développer de nouveaux médicaments à n'importe quel prix. Il y a évidemment la question du prix de vente, mais c'est d'abord le prix que l'on investit dans la recherche. Claude Le Pen, ce qui se passe aujourd'hui autour de la recherche d'un vaccin contre le virus Ebola, on voit qu'il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués et qui sont dans une démarche à essayer de trouver qui des tests de dépistage, qui directement le vaccin. Est-ce que ça témoigne d'abord d'une concurrence effrénée, selon vous, entre les laboratoires ? C'est-à-dire, il faut absolument être le premier pour pouvoir être le premier à commercialiser le vaccin ? Ou est-ce qu'on est plutôt, ça témoigne davantage d'une forme de coopération internationale face à un danger extrêmement grave ?
Je crois qu'il y a un petit peu des deux. Il est évident que la concurrence joue. C'est ce qu'on appelle en économie industrielle la patent race, hein, la course au brevet. Hein, et celui qui gagne le brevet a, c'est vrai, sur les autres, un avantage comparatif. Il servira de référence pour les autres. Il fixera les normes en termes d'efficacité et de prix. Et donc, il va donner un petit peu le la du marché. Cela dit, il y a une coopération quand même, peut-être pas entre firmes, mais au moins entre firmes et labos publics. Parce que l'essentiel de la recherche jusqu'à présent était plutôt une recherche publique pour des universitaires qui s'intéressaient à ce type de virus, y compris en France. Hein. C'est-à-dire que dans le laboratoire P4 à Lyon, il y avait des gens qui travaillaient sur Ebola parce que c'est un virus intéressant, c'est un virus qui posait des problèmes de santé publique localisés avant qu'il prenne cette dimension épidémique. Donc, et puis, à partir du moment où, c'est vrai, ça devient un problème global, que ça touche un peu l'Occident, il faut bien le dire, les firmes se mobilisent et essayent de trouver dans la recherche fondamentale de quoi nourrir des produits.
Éric Bazeillac, on pourrait dire que c'est un virus qui devient intéressant aujourd'hui dans la mesure où il menace peut-être d'autres victimes que des Africains ?
Oui, bien sûr, je vous vois venir avec cette formulation, mais
elle est assez claire, ma formulation.
Bien sûr. Je ne veux pas nier qu'il y a effectivement une industrie pharmaceutique qui doit répondre à un modèle économique. Et ce modèle économique, il est basé sur la demande. Donc l'industrie pharmaceutique, elle répond à une demande, et cette demande, elle est formulée aujourd'hui en termes terribles, hein, et d'un point de vue épidémiologique. Mais je ne voudrais pas négliger aussi des aspects qui vont peut-être vous surprendre, mais auxquels je crois profondément pour avoir travaillé à l'intérieur de ce monde-là, c'est l'aspect politique. Je crois qu'à un moment où l'industrie pharmaceutique, c'est le moins qu'on puisse dire, ne jouit pas d'une image extraordinaire, et bien ma foi, s'inscrire dans un mouvement de mobilisation mondiale de manière positive, c'est important.
Donc une forme de responsabilité politique, quitte à assumer de ne pas gagner d'argent, voire peut-être d'en perdre sur ce sujet-là.
Tout à fait, et j'allais dire, et c'est un mouvement important depuis ces dernières années dans l'évolution des industriels de la pharmacie, une certaine conscience de citoyenneté.
Jean-Paul Vernant, est-ce que vous l'avez constaté, vous, cette conscience de citoyenneté ? Et en tout cas, sur le virus Ebola, cette effervescence, vous la jugez comment, vous, aujourd'hui ?
Non, mais j'espère effectivement que l'industrie pharmaceutique va s'investir, qu'elle ne cherche pas simplement à se refaire une virginité, parce que c'est vrai qu'elle a été beaucoup attaquée, et pas toujours de manière totalement injuste.
Claude de Peine.
Ce qui peut se passer avec le virus, mais qui se passe aussi sur d'autres traitements, c'est des prix différenciés. C'est-à-dire avoir des prix différents selon les pays. Alors ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors, ça existe pour le sida, par exemple, hein, puisque les traitements... je parle surtout avant le générique. Maintenant, le générique a changé. On trouve un petit peu des trithérapies dans le tiers-monde à des prix qui sont...
Ça va être la même chose pour l'hépatite C.
Je pense que ce sera sans doute très simplement la même chose pour l'hépatite C. Pour l'hépatite C, par exemple, le fameux traitement, aujourd'hui, le laboratoire a annoncé qu'il ferait payer 1 000 dollars la cure de 12 semaines, de 3 mois aux Indiens et aux Égyptiens, alors que c'est 56 000 dollars aux États-Unis. Donc 56 fois plus cher aux États-Unis qu'en Inde. Donc là, vous voyez, je pense que les laboratoires ont un peu tiré les leçons d'un événement qui a été assez traumatique, c'est le procès de Pretoria en 99, où il y a eu, disons, ils ont imposé, ils sont poursuivis de manière judiciaire des gouvernements qui essayaient de sauver leur population, et qui ne referont pas cette même erreur avec ces politiques de prix plus facile, disons, pour les pays en voie de développement.
Ça suppose quand même, Jean-Paul Vernant, que pour que les laboratoires s'engagent dans ce genre de politique tarifaire différenciée en fonction du niveau de richesse des pays, il faut quand même que les maladies, elles concernent aussi des pays riches. Si ça ne concerne que des pays qui n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments, ça ne marchera pas.
Tout à fait. Mais si on prend le modèle du produit de Gilead, en fait...
Alors Gilead, rappelons donc, c'est Sovaldi, c'est un médicament contre l'hépatite C, nouveau médicament à caractère d'innovation particulièrement fort, dit-on, c'est-à-dire beaucoup plus efficace que ce qui était proposé jusqu'à présent, mais à un prix qu'on a du mal à s'expliquer, en tout cas sur les marchés occidentaux. Je disais autour de 50 000 euros pour 12 semaines. La France, c'est, je crois, autour de 56 000.
Non, alors,
dans d'autres pays,
France,
c'est un petit peu moins.
Oui, en France, aujourd'hui, le produit bénéficie d'un statut un peu particulier qu'on appelle l'ATU, c'est-à-dire que les patients, ils l'ont en compassionnel pour les patients les plus graves à l'hôpital. Mais ce n'est pas le prix norme définitif. Le prix définitif est en train d'être discuté. Il sera très inférieur à ça.
Alors Jean-Paul Vernant.
Il est évident que l'industrie pharmaceutique ne peut pas se permettre dans des pays pauvres de demander ce prix colossal. Et donc ce qui a été, je pense, décidé par Gilead, c'est dans les pays à faible revenu de faire la cure à 900 euros. Dans les pays à revenus intermédiaires, 2000 à 7000 euros. Et dans les pays riches, dont nous sommes, effectivement, entre 50, 60, 80 000. Voilà.
Mais après tout, en fait, dans une époque où on parle de modulation, alors des allocations familiales, je fais ce parallèle qui est peut-être un petit peu bizarre, mais on dit finalement, c'est aux plus riches de payer davantage et aux plus pauvres de bénéficier des aides. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique justement ?
Manifestement, Gilead va faire des profits formidables dans les pays riches, va faire des profits importants dans les pays intermédiaires et va faire des bénéfices non négligeables dans les pays pauvres. Le coût de production est probablement d'environ 150 à 200 euros la cure. Prenons l'exemple de l'Égypte. En Égypte, il y a 12 millions d'Égyptiens qui sont touchés par le virus. 12 millions. Supposons simplement qu'il faille en traiter la moitié, 6 millions, en relative urgence parce qu'il y a une fibrose importante du foie. au coût qui était proposé au départ par Gilead de 2000 euros, le coût ne pouvait pas être assumé par l'Égypte. Actuellement, l'Égypte a négocié et le coût va être sans doute de 900 à 1000 euros. Mais 1000 euros pour 6 millions d'Égyptiens, ça fait 6 milliards. Ceci représente une somme colossale pour le budget de la santé d'Égypte et un bénéfice très important pour Gilead.
Éric Bazeillac.
Oui, alors on peut aligner des chiffres et faire des multiplications, etc. On va vite attraper le vertige. Je voudrais essayer de redonner un peu de sens à tout ça. Moi d'abord, je m'interdis de commencer à parler de l'hépatite C sans commencer, c'est assez rare en ce moment, vous en conviendrez, par nous réjouir. Je veux nous inviter à nous réjouir. L'histoire de Gilead est en train d'inaugurer une période de retour du progrès thérapeutique. De rupture, comme l'on dit, hein, le vrai progrès thérapeutique. Et ça, c'est très heureux. Je veux dire,
le vrai thérapeutique, ça sous-entend qu'il y a des nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché qui ne sont pas de vrais progrès.
Ça sous-entend qu'il y a des périodes de progrès, de petits pas, hein, de progrès incrémentaux. Et là, pour la première fois, on renverse les paradigmes, les concepts, et on va aboutir, et ce sera vrai notamment en cancérologie pour les prochaines années, cancer du poumon, du pancréas, etc. C'est vrai dès maintenant pour l'hépatite C. On change complètement la donne, donc il y a un vrai progrès thérapeutique. Et ça, c'est très différent. Et c'est ça qui bouscule au fond tout notre modèle et qui fait qu'on est là aujourd'hui.
Et on profite aussi de ce progrès important, de ce progrès thérapeutique important pour être en position de force et imposer des prix assez exorbitants quand même.
Qu'est-ce qui se passe? Et là, je rejoindrai volontiers Jean-Paul Vernant quand il nous parle d'impact budgétaire. Ce qui se passe, c'est qu'on a vécu jusqu'aux années 2000, en mettant au monde, l'industrie pharmaceutique a mis au monde des médicaments à prix raisonnable, à petit prix, s'adressant à des très grandes populations cibles. Et puis ensuite, on est passé, le modèle a évolué sous la contrainte de la maîtrise budgétaire, vers des molécules à prix plus élevé, mais qui s'adressaient à des marchés de niche, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire de toute petite population cible. Jusqu'à présent, pas trop de problèmes. Là, le modèle qu'inaugure ce nouveau produit de l'hépatite C, c'est que pour la première fois, on a un produit à très forte valeur ajoutée, à niveau de prix élevé, s'adressant potentiellement à des populations larges. Et là, on voit bien qu'on a un souci d'impact budgétaire. À mon avis, je conclue là-dessus, ça réveille deux interpellations légitimes de la part de la société à notre égard. La première, c'est celle de la rationalité du prix. C'est le titre de votre émission. Au fond, comment s'est fait tout ça? Comment vous inscrivez la rationalité de votre prix? Et la deuxième, qui pour moi est le vrai sujet, c'est celle de la soutenabilité financière du modèle. Est-ce qu'à ce prix-là, on va pouvoir financer?
Claude Le Pen, est-ce qu'on est dans la rationalité avec Sovaldi? C'est-à-dire, comme nous l'expliquait Éric Bazeillac, on a un fort progrès thérapeutique, on a une masse critique de patients qui est importante, c'est pas une niche, c'est vraiment des millions de personnes qui peuvent être concernées. Quand on fait un petit peu d'économie ou de mathématiques, on sait bien que plus il y a de monde, a priori, plus le traitement est censé coûter moins cher. Là, elle est où la rationalité?
Alors, le problème, c'est qu'il y a plusieurs rationalités. Bon, il y a des conflits de rationalité. J'en vois au moins trois. La première rationalité, Jean-Paul y a fait allusion, c'est que ça ne coûte pas cher à produire. Ça coûte pas cher à produire, mais ça coûte très cher à inventer. C'est-à-dire que le laboratoire a dépensé en achetant un produit, dans notre jargon, on dit en phase 1, c'est-à-dire une promesse de produit qui n'avait pas fait la preuve de son efficacité. Il a acheté cette molécule, 11 milliards de dollars. Bon, il va l'amortir, son 11 milliards, ils sont bien partis pour l'amortir très très vite. Mais si vous voulez, déjà, ça change. On n'est plus sur 200 euros, on est sur un produit qui doit amortir ces 11 milliards qui ont été levés sur le marché financier. Hein. C'est des actionnaires qui ont mis 11 milliards, donc ils veulent un petit peu un retour.
Mais il va un retour immédiat, non, sur investissement?
Il va un retour sur une période de 4-5 ans, enfin une période...
En 6 mois, ce sera réglé.
En l'occurrence, ce sera peut-être plus rapide. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Deuxième logique, la logique de la R&D. Troisième logique, la logique du service rendu aux patients. C'est-à-dire combien nous sommes prêts à payer pour éviter que quelqu'un ait une hépatite C. Pour quelqu'un qui a une hépatite C, guérisse. C'est-à-dire n'ait pas de traitement interféron plus ribavirine tout au long de sa vie, n'ait pas d'hépatocarcinome, enfin de cancer du foie, n'est pas de transplantation, n'est pas, etc. Donc il y a une transplantation qui coûte en gros 65-70 000 euros. Donc si vous voulez, donc on est sur trois logiques. Soit je regarde combien ça me coûte, soit je regarde combien je vais faire de profit en rentabilisant mon investissement, soit je regarde combien ça apporte Quel est le service rendu à la collectivité en sauvant des vies? Et au fond, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour éviter que des gens meurent d'hépatite C? Alors, est-ce qu'on est prêt à payer uniquement 200 euros ou est-ce qu'on est prêt à payer un peu plus? C'est un vrai problème. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des... Le calcul a été fait. Hein, le calcul a été fait. Parce qu'il y a des pays, notamment l'Angleterre, où sont très stricts là-dessus. Ils disent, une vie humaine, ça vaut tant. Nous, on ne le fait pas. Mais eux, ils le font. Ils disent, une vie humaine, ça vaut 30 000 livres sterling par année.
Donc, principe de l'efficience.
Principe de l'efficience, vous avez un tarif. Bon, et le problème, c'est que le traitement, même au prix exorbitant, il rentre un peu dans ses clous. C'est-à-dire qu'il sauve des vies au niveau de ces normes de valeur de la vie humaine. Donc, on est très embêté sur ce problème. On est très embêté parce qu'il est à la fois très cher, à la fois très efficace, et il est à la fois efficient. Donc, on est un petit peu... Alors, je pense qu'il faut inventer de nouveaux modèles. Hein, il y a des solutions, parce qu'on ne va pas non plus se coucher devant le problème. Mais c'est vrai que ce problème est nouveau. Voilà, il est nouveau. Et la mauvaise nouvelle, Eric nous disait que la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un progrès. La mauvaise nouvelle, si je puis dire paradoxalement, c'est qu'il y a d'autres progrès qui arrivent. C'est-à-dire que le modèle va être produit.
Ah bah, c'est ce que j'allais poser justement comme question à Jean-Paul Vernon. Non, ce problème qui est nouveau, est-ce que c'est un problème qui est amené à rester exceptionnel ou est-ce qu'il est amené à se reproduire et, ou peut-être d'ailleurs qu'il se reproduit déjà? C'est-à-dire, est-ce que vous constatez, par exemple, dans votre pratique de médecin, Jean-Paul Vernon, une inflation assez grande du prix des médicaments qui sont annoncés comme ayant une forte plus-value thérapeutique, disons.
Avant ça, je voudrais revenir quand même sur le produit, le Sovaldi. Il n'a pas coûté cher du tout à produire. La recherche, c'est la recherche institutionnelle, au départ. Ce n'est pas Pharmacet, la boîte qui a été rachetée par...
Donc c'est l'argent public, ça veut dire.
Bon, c'est-à-dire c'est l'argent public. D'autre part... Moi, j'ai un problème éthique, c'est-à-dire que la Sécurité sociale en France va payer une opération boursière, qui est le rachat par Gilead de la petite boîte de biotech, 11 milliards. Et clairement, 6 mois, 8 mois, la chose sera faite et sera remboursée. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, Claude, moi, je ne suis pas sûr que le paiement à la performance soit une si bonne chose que ça.
Ah, oui, je suis d'accord.
Hein. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Oui. Dans la mesure où, dans les années 50, faisons un peu d'histoire, au moment où la tuberculose régnait encore en Europe, l'arrivée du Rimifon, de la streptomycine, a complètement changé les choses. Si les fabricants avaient dit... Ceci permet d'éviter des mois et des mois de sanatorium, des interventions lourdes de chirurgie thoracique inefficace, et on va faire payer nos produits très chers, eh bien les malades auraient continué à mourir pendant très très longtemps de tuberculose. Autre chose, est-ce que les fabricants d'airbags font payer très cher au prétexte que ça permet de sauver des vies humaines et d'éviter des paraplégies et des traplégies? Non. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille payer les médicaments en fonction... Non, mais des économies que cela permet de faire. Jean-Paul, c'est pas sain du tout.
J'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit que c'était des logiques qui étaient...
Je comprends.
Et donc, il y avait... Okay. Bon, on peut regarder ça là. Maintenant, je crois que c'est un problème mondial. C'est un problème... On n'a pas la maîtrise de ce prix. Ça existe. On a des patients. Et notre problème pratique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille dans cette situation-là? Est-ce qu'on paye le produit ou on ne le paye pas? Est-ce qu'on laisse les 100 ou 200 000 patients... alors que l'HAS a reconnu que c'était un service important? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on fait? En gros, qu'est-ce qu'on a fait en France? On a fait deux choses. Un, on négocie le prix. Donc, le prix sera quand même assez inférieur. Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est une négociation compliquée et il y aura le laboratoire va consentir des remises. Hein, c'est cher, donc il va ristourner un peu à l'État. Donc, c'est un système. Bon. Deuxièmement, le gouvernement a mis une enveloppe. Une enveloppe, il a dit que le chiffre d'affaires maximal, on a capé, comme on dit, le chiffre d'affaires pour l'année prochaine, 700 millions d'euros capés. Voté par le Parlement il y a deux jours.
Ce qui risque d'obliger de choisir parmi les bénéficiaires.
Non, alors... En principe, ça a été fait, en principe, le calcul a été fait pour que, compte tenu du nombre de patients et compte tenu de la négociation avec le prix, on devrait payer, on devrait passer.
Je voudrais revenir sur ces logiques de rationalité du prix. Du point de vue de l'industriel, et je rejoins tout à fait les propos de Claude Le Pen, c'est vrai qu'on ne construit pas le prix d'un médicament comme on construit le prix d'une baguette de pain. C'est-à-dire que ce n'est pas le prix de la farine, plus l'eau, plus le salaire horaire du boulanger, évidemment. C'est de la capacité à amortir les coûts de recherche et de développement. Et là, je voudrais répondre à Jean-Paul Vernant que les coûts de recherche et développement, c'est surtout le D de R&D qui pèse lourd. Le développement, avec le nombre d'études cliniques absolument faramineux. Et là, on a une problématique de temps, d'ailleurs, de cette recherche et développement.
Parce que ça prend de plus en plus de temps aujourd'hui.
Elle était contenue sur 10 ans, maintenant on est plus sur 12 ans. Et on a un problème de rentabilisation, de précarisation de la période de rentabilisation, ensuite la période commerciale sous brevet, qui passe de 10 ans à 8 ans. Donc vous voyez un peu les logiques économiques. Deuxième élément dans le modèle économique, une fois qu'on a amorti ces coûts de recherche et développement, il faut qu'on réamorce la pompe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette toujours en capacité de financer de nouvelles innovations. Sinon, c'est la machine à fabriquer du progrès thérapeutique qui ne fonctionne plus. Donc ça, c'est essentiel. Et autre rationalité, pour rejoindre les propos de Claude Le Pen, c'est celle des autorités avec lesquelles on fixe aujourd'hui le prix du médicament ou qui fixe le prix du médicament après négociation avec les industriels. Là, il faut reconnaître que l'élément prévalent dans la rationalité du prix aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée thérapeutique, c'est-à-dire la valeur, le progrès, l'efficacité supplémentaire qu'apporte le médicament nouveau par rapport à ce qui existe déjà. Et moi, je veux bien reconnaître, et c'est en cela que l'exemple Sovaldi m'interpelle, qu'aujourd'hui, ce raisonnement est devenu un peu court et qu'à mon avis, il faut passer de ce que les anglo-saxons appelaient le value-based pricing, le prix fondé sur la valeur, qui était un peu dogmatique. Il faut garder cette valeur comme le cœur de nos raisonnements, mais il faut aller vers une logique que les économistes n'aiment pas. Ils n'aiment pas ce terme, Claude Le Pen, je le sais, mais moi que j'appelle le juste prix parce que je sais que ça parle à la société. Et on pourra développer sur cette idée de juste prix.
Jean-Paul Vernant, une réaction.
Oui, juste un mot. La recherche et développement, faut pas exagérer quand même. On sait très bien, là j'ai les chiffres. En 2012, recherche et développement, ça représente en gros 15% du chiffre d'affaires de Sanofi. Pour GSK, ça représente 14,7%.
C'est considérable. Hein.
C'est considérable.
Un des taux d'investissement les plus importants de l'ensemble de l'industrie.
Les retours sur investissement pour les actionnaires, c'est deux fois ça. C'est-à-dire, c'est 23% pour Sanofi, et c'est 20% pour...
Et c'est grâce à eux que les investissements pourront être pérennisés.
Mais attendez,
c'est
et le marketing, c'est 20-25%.
C'est-à-dire que... Ça diminue drastiquement.
Mais lorsque vous dites que le développement augmente, je ne suis pas d'accord avec ça. Le coût du développement, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en cancérologie, une nouvelle molécule, elle ne va pas être testée. Supposez un cancer dont tout le monde meurt en 6 mois. Vous incluez 20 malades avec un traitement ciblé. Tout le monde est vivant à un an, on ne fera pas d'essai double aveugle prolongé. On va donner, sur simple, cet essai phase 1 ou phase 2, on va donner une AMM conditionnelle.
Et vous savez qu'est-ce que c'est qu'une AMM conditionnelle ? Autorisation
de mise sur le marché très rapide, conditionnelle, c'est-à-dire qu'on va l'accorder en regardant dans la vraie vie si les choses se passent comme ça s'est passé avant. Voilà.
Que l'on vérifiera par la réalisation d'études cliniques qui vont coûter énormément d'argent.
Non, mais le développement est de moins en moins cher pour les traitements ciblés. Et la recherche également de moins en moins cher, puisque les cibles sont définies par la recherche institutionnelle, la recherche publique.
Vous exprimez une intuition que vous avez, mais qui est, pardonnez-moi de le dire, je ne veux pas employer un mot fort, mais vérifions-le, une contre-vérité chiffrée. Il y a une augmentation exponentielle du nombre d'études cliniques, et c'est légitime d'ailleurs, qui sont demandées aujourd'hui dans les développements des molécules, simplement parce qu'on a besoin et la société réclame de plus en plus de garanties en termes de risque, en termes de tolérance de cette population. Et donc, il y a une inflation.
Excusez-moi, les traitements ciblés, on accorde des AMM de plus en plus rapides avec des essais. Et la durée du brevet, jusqu'à maintenant, un médicament standard, il y avait 10 ans de développement et puis une AMM, 10 ans du brevet. Oui. Là, au bout de 5 ans, on a l'AMM et ça fait 15 ans de durée de vie du brevet. Il y a un vrai problème là.
Il y a un acteur, messieurs, qu'on n'a pas encore évoqué pour essayer de réfléchir à cette question de, en gros, qu'est-ce que c'est que le juste prix d'un médicament, le bénéfice thérapeutique, certes, mais c'est aussi le juste prix, peut-être, celui que le patient, le malade est prêt à payer, même si, évidemment, avec la sécurité sociale, il y a des remboursements. Mais je voudrais vous faire entendre le sociologue Sébastien Dalgalarondo, qui, lui, a travaillé justement sur ces questions, sur la façon dont les associations de malades interviennent dans le débat. Il est chercheur à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Il répond à Mélanie Chalandon.
Une forte forte mobilisation associative va à la fois permettre d'attirer des financements, de concrétiser quelque part un marché et de favoriser la recherche. Et peut-être que si on s'intéresse au coût, ça va aussi peut-être favoriser un prix élevé, car si une molécule est très désirée, si les associations l'attendent depuis longtemps, bien sûr, il sera peut-être plus difficile pour le politique de négocier avec le laboratoire. C'est en tout cas ce qu'on a pu observer dans les années 90, dans le domaine du sida, où la préoccupation première des associations de malades, et c'était bien légitime, c'était d'obtenir au plus vite des molécules. Et le prix était évoqué, mais souvent passé au second plan. Et on voit ici qu'avec l'hépatite C, le contexte a vraiment évolué par rapport aux années 90, puisque les associations de malades sont là les premières à dénoncer quelque part le prix des laboratoires pharmaceutiques. Donc le rôle des associations de malades peut être double, on le voit ici.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Voilà, la production de nouveaux médicaments doit-elle se faire à n'importe quel prix? C'est la question qu'on pose ce soir. Claude Le Pen, quand le comité économique des produits de santé, qui est l'instance qui fixe les prix, se réunit et discute avec les industriels du médicament pour fixer des prix, est-ce que le critère du patient des malades est prise en compte dans l'élaboration des prix?
Enfin, oui et non. Alors d'abord, vous faites bien de rappeler, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, que les prix en France sont fixés par l'État. Bon, on dit le laboratoire fixe les prix, mais non, le prix qui sera pratiqué est un prix qui a été fixé par l'État, par cette commission. Cette commission est tout sauf opaque. Elle a la puissance de l'être, mais elle ne l'est pas. Il y a 30 personnes, c'est pas un comité secret. Et cette commission, dont on fête les 20 ans, a été créée en 1994 pour éviter précisément le système qui prévalait avant, où c'était le cabinet du ministre qui fixait les prix avec un certain nombre de dérives que vous connaissez et que sur lesquelles je ne reviendrai pas.
Et ben reste à savoir quels sont les critères qui sont retenus, Claude Le Pen, parce que je voudrais juste vous citer un extrait et après je vous laisse poursuivre, d'un numéro spécial qu'avait publié l'an dernier, non c'était en février dernier, Alternatives économiques, santé, l'état d'urgence, il y a tout un chapitre qui est consacré au prix du médicament, et voici ce qui est dit dans un des articles. Il est évident que la logique de fixation des prix, donc on parle de la France, hein, repose moins sur la mesure de l'intérêt thérapeutique que sur le souci de soutenir économiquement les laboratoires pharmaceutiques, notamment français.
Bon non, alors ça, vous savez à quelle époque c'était vrai ça? C'était vrai dans les années 80, quand toute l'industrie française était nationalisée. Et quand il y avait deux grands groupes, Sanofi et Rhône-Poulenc, et qui ont été effectivement supportés par l'État, avec des choses qu'aujourd'hui on trouverait scandaleuses. Les gens qui feraient du co-marketing, où on vendait des molécules, on achetait des molécules. Il y a eu une période qui était réellement de ce point de vue-là. Bon, aujourd'hui, tout ça a été moralisé depuis une vingtaine d'années, grâce à des commissions qui fonctionnent relativement bien. Quels sont les critères? Il y a quatre critères. Premier critère, c'est un critère d'évaluation de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le service médical rendu, l'amélioration du service médical rendu. Il y a une commission indépendante, la Haute Autorité de Santé, qui donne une note de 0 à 5, enfin de 1 à 5. Le 1, c'est bien, hein, c'est inverse. Le 1, c'est bien et 5, c'est pas bien. Donc, il donne une note de 1 à 5 et cette note compte. C'est-à-dire, si je suis 1, j'ai plus de chances d'avoir un prix élevé que si je suis 5. Si je suis 5, la loi dit qu'il faut me baisser le prix, que je dois avoir un prix défalqué de 30 à 40% par rapport au prix du comparateur. Deuxième critère, la taille du marché. C'est vrai que plus il y a de patients, plus le prix sera. Parce qu'en fond, ce que regarde la Sécu, c'est pas tellement le prix, c'est la dépense. Donc le prix fois le nombre de patients. Troisième critère, les prix à l'étranger. C'est-à-dire que les laboratoires doivent informer les firmes des prix qu'ils pratiquent à l'étranger. Et nous avons dans notre code, dans la loi, une obligation de cohérence, notamment pour les produits importants, de cohérence avec les prix sur les quatre pays, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne.
Cohérence au niveau européen.
Et puis, il y a un dernier critère, qui est un critère de négociation, c'est-à-dire que la firme peut s'engager, par exemple, à ristourner. Un peu comme faire des conditions commerciales. Je vous ristourne une fraction du chiffre d'affaires en fin d'année si ça a bien marché. Voilà comment ça marche aujourd'hui. Et ceci marche, tout ça c'est des règles, hein. C'est pas une invention, c'est des règles, c'est des lois, le Parlement les a votées, il l'a fait aujourd'hui encore, puisqu'on vient de voter aujourd'hui le projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc tout ça est assez public. C'est pas facile d'y rentrer, mais c'est pas non plus complètement impossible.
Éric Bazeilla, qu'est-ce qu'il faudrait pas que les firmes pharmaceutiques pharmaceutiques, à partir du moment où elles ont rentabilisé leur innovation, même si le produit qu'elles commercialisent est encore sous brevet, qu'elles justement diminuent le prix et qu'elles acceptent d'avoir des marges moins importantes, ce qui permettrait peut-être d'ailleurs aussi de faire passer davantage le fait que les nouveaux produits, eux, soient proposés à des prix un peu plus chers, au moins au début de leur commercialisation.
Alors, il y a déjà aujourd'hui dans le système, hein, c'est même très très important, une régulation du prix, une dynamique du prix dans le temps qui est extrêmement forte en France. Hein. Vous regardez le PLFSS, c'est un sujet d'actualité, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et vous voyez 900 millions de baisses de prix qui vont être appliquées. Ça, c'est pas la fixation du prix, c'est la régulation du prix. Mais je voudrais enchaîner sur cette idée de juste prix qu'on évoquait au début de l'émission. Pour moi, ce qui manque aujourd'hui peut-être dans le système et qui ferait passer d'un système fondé par la valeur à la notion de juste prix, c'est la prise en considération de l'impact budgétaire. C'est-à-dire cette idée de, est-ce que au prix que j'introduis, auquel j'introduis mon médicament, il est soutenable financièrement par les payeurs, hein, par la sécurité sociale en France dans le temps. Et là,
et ça, vous ne le savez pas à l'avance.
Alors si, on peut le calculer. Mais, et ce calcul est passionnant d'ailleurs, parce que ce calcul, pour être tout à fait juste, il doit faire rentrer deux considérations. D'abord, le coût. Hein, pour effectivement le payeur, donc ça c'est le prix multiplié par le nombre de patients, mais aussi les économies qui vont être générées par le médicament. Le médicament, c'est pas un simple objet, c'est quelque chose qui va avoir un impact considérable sur l'organisation des soins. Prenez par exemple dans le domaine de la cancérologie l'introduction des chimiothérapies par voie orale, ça va tout bouleverser. Or aujourd'hui on se heurte à deux obstacles majeurs qui empêcheraient d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement de prise en compte de l'impact budgétaire de médicaments. Le premier, c'est celui du tempo de la régulation. Regardez l'exercice auquel les députés se livrent aujourd'hui, la régulation annuelle du PLFSS. Tous les ans, on se pose la question de l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Mais ce n'est pas à cette échelle temporelle-là qu'il faut agir. Il faut élargir cette focale. Sinon, regardez le cas de Sovaldi. Sovaldi coûte très cher tout de suite et va rapporter beaucoup d'économies dans 5 ans, dans 10 ans. Comment fait-on pour les capturer? Premier sujet, augmenter la régulation dans le temps. Et deuxième sujet majeur, c'est très franco-français, cette logique d'enveloppe dans laquelle le budget du médicament et de la santé en général est enfermé. Nous gérons par petites enveloppes cloisonnées qui n'ont rien à voir. En d'autres termes, je coûte en tant que médicament dans une enveloppe précise, je vais générer des économies, épargne d'hospitalisation, épargne de grève du foie, pour parler de Sovaldi, dans une autre enveloppe, et jamais personne n'aura de vision complète, globale du système. Voilà deux obstacles majeurs.
Jean-Paul Vernant.
Oui, moi, ça me gêne un peu cette idée que le produit va permettre de faire des économies. Donc, on va, pour moi, une molécule qui coûte pas cher à trouver, qui coûte pas cher à développer, même si elle est d'une grande utilité, ne doit pas être chère. C'est un avantage formidable pour les malades, pour l'État, pour le payeur. Je suis désolé, c'est pas très intéressant pour l'industriel, mais là, on voit la contradiction qu'il y a entre l'intérêt de l'industriel et l'intérêt de l'État.
Oui, mais est-ce qu'à contrario, ça veut dire que vous comprenez, Jean-Paul Vernant, qu'une molécule qui coûte cher à produire, elle soit chère dans sa commercialisation?
Absolument, absolument. Mais moi, pour moi, le juste prix doit être négocié entre, d'une part, l'industriel et, d'autre part, les autorités qui discutent avec cet industriel des prix. On doit mettre à plat combien a coûté la recherche, mais vraiment à plat et de manière transparente. Combien a coûté le développement?
Parce que ce n'est pas transparent pour vous aujourd'hui.
Non. Combien a coûté le développement? Et puis, vous voulez des marges. Bien entendu, pour vos actionnaires, c'est normal, mais des marges raisonnables, pas 23% du budget global. Voilà. Et à ce moment-là, on va faire un prix qui va durer.
On l'a fait.
Alors, le jour où les choses sont payées, où les sommes engrangées correspondent à ce qui a été décidé, à ce moment-là, le laboratoire, dans mon esprit, garde le brevet jusqu'à son terme, des 20 ans, mais il devra commercialiser au prix habituel que
c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Au prix des génériqueurs. Au prix des
génériqueurs.
Non, mais dans les 50%, c'est beaucoup moins de
50%. Jean-Paul, c'est moins simple que tu le dis. On a fait l'expérience. Les Anglais ont fait ça. Les Anglais ont décidé que le prix du médicament, ce qui est intéressant, ce n'est pas le prix, c'est le profit des firmes. Donc au fond, peu importe le prix, du moment que les firmes ne font pas trop de profit, ce qui est un peu proche. Et ça n'a pas marché. Enfin, ils ont abandonné le système. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus d'innovation ?
Non, parce que ce système, parce qu'on payait du profit. C'est-à-dire que innovation ou pas, on solvabilisait des firmes. En plus, le profit, c'est le capital, c'est ce que ça rapporte en investissement. Donc plus on investissait, plus on avait des prix élevés. Donc le système s'auto en quelque sorte, pour avoir des prix élevés, il suffisait d'investir et je récupérais mon taux de profit baissait et donc je récupérais des prix pour venir à la norme. Et ils l'ont plus ou moins, le système existe encore nominalement, mais ils l'ont plus ou moins abandonné et ils ont cherché comme système alternatif, les Anglais, ce fameux ce que Jean-Paul critique, et je ne suis pas complètement en désaccord avec lui, aller chercher la valeur du médicament, la valeur thérapeutique du médicament.
Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer une simple logique économique,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, exactement. C'est-à-dire que nous avons autour de ce problème différentes approches. Et il faut faire une espèce de synthèse, de discussion, de trouver un petit peu une question d'équilibre, un petit peu au cas par cas. Si, encore une fois, si ce Valdi reste un cas isolé, on va le résoudre le problème. On va trouver un prix, le laboratoire va râler un peu, les pouvoirs publics vont faire un petit peu d'effort, on va demander un effort aux autres labos parce que toute l'industrie pharmaceutique va se trouver à payer un petit peu le Sovaldi, etc. Donc on va se trouver. Là, on aura beaucoup plus de problèmes et là, va falloir réfléchir à des solutions plus pérennes, c'est si ce type d'innovation se reproduit dans le temps.
C'est justement que la question que je posais tout à l'heure à Jean-Paul Vernant, mais vous n'avez pas eu le temps de me répondre parce que vous vouliez d'abord réagir à ce qu'avait dit Claude Le Pen. Claude Le Pen nous dit, si Sovaldi reste un cas isolé, est-ce que vous pensez que Sovaldi va rester un cas isolé ou bien est-ce qu'on est en train d'ouvrir une brèche qu'il y aura d'autres cas similaires ?
Alors, si je parle de la cancérologie, je pense qu'il y aura avant tout des médicaments de niche. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une dissection moléculaire des différents cancers. Avant, il y avait le cancer du côlon. Maintenant, il va y avoir bientôt 10, 20, 30 cancers du côlon. Et c'est évident qu'à ce moment-là, l'industriel ne va plus traiter, par exemple, en France, 40 000 cancers du côlon, mais va traiter 300, 1000, 3000, 4000 en fonction des anomalies moléculaires. Et il est évident que la tendance de l'industriel va être de dire au lieu de traiter mon médicament, au lieu de traiter 40 000 malades, en traite 4 000, je vais faire payer 10 fois plus cher. Mais à ce moment-là, la somme globale sera multipliée par 10 et on ne pourra plus se payer ces innovations. Donc là, il y a un vrai problème. Je ne pense pas qu'en cancérologie, on aille vers un médicament qui pourra traiter des millions et des millions de malades. Je ne pense pas.
Je pense que la tendance est inverse. Parce qu'il y a aussi plein de choses à côté de ça. Vous avez plein de médicaments, pour donner un peu d'espoir, il y a plein de médicaments de biotech très chers qui vont devenir des biosimilaires, c'est une espèce de générique moins cher à des prix. Et là, il y a un potentiel d'économie important. Deuxièmement, il va y avoir de la concurrence. Sovaldi ne va pas rester seul. Et les produits qui vont arriver vont faire baisser les... Et puis, troisièmement, se développe aujourd'hui ce qu'on appelle les thérapies ciblées, c'est-à-dire les thérapies où on vise des groupes de gens qui ont des mutations génétiques, et ça, c'est des petits groupes. Donc, si vous voulez, c'est important, c'est vrai qu'on en discute, mais il ne faut pas, à partir de là, engendrer une panique en disant le progrès thérapeutique est au-dessus de nos moyens, et on va mourir de toutes les pathologies parce que la France ne peut plus soigner.
Dire qu'on n'aura peut-être pas accès aux soins, Jean-Paul Vernant, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de découvrir, nous, dans un pays riche comme la France, l'eau chaude, c'est-à-dire des problématiques auxquelles sont confrontés depuis des années pays beaucoup moins riches, on évoquait par exemple l'Afrique du Sud, l'Inde, c'est-à-dire des traitements qui ne sont pas toujours accessibles.
Dans ma spécialité, je traite de manière très efficace les malades ayant une leucémie myéloïde chronique avec du Glivec, l'imatinib, qui est un produit fabriqué par Novartis, ça coûte entre 27 et 40 000 euros par an par malade. Et les malades vont vivre pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, il est évident que les pays du tiers-monde ne peuvent pas se payer ça. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce que je trouve un peu triste, c'est qu'actuellement, l'hôpital va fonctionner de plus en plus comme une entreprise. Il faut que l'hôpital soit rentable, ce qui est un non-sens. D'autre part, je trouve un peu triste que l'industrie pharmaceutique se comporte comme les autres industries. Or, pour moi, c'est une industrie bien particulière parce que le malade n'est pas un consommateur comme les autres. Il est un consommateur malgré lui. Il n'a pas choisi d'être malade. Et j'aimerais que l'industrie pharmaceutique se comporte de manière tout à fait particulière et de manière, j'ose dire, éthique.
Eh ben, c'est à l'industrie pharmaceutique que nous allons laisser le mot de la fin, Éric Bazeillac.
Non, je pense que la manière éthique, pardonnez-moi, de traiter ce sujet-là, c'est précisément de s'échapper de l'arbre qui cache la forêt au fond du sujet qui est celui du prix du médicament pour aller vers le sujet du vrai problème, du vrai sujet qui est celui du financement, de la capacité à financer et donc de la régulation économique du médicament. C'est ça le vrai sujet. Et moi, personnellement, mais je pense que beaucoup de gens autour de moi dans l'industrie pharmaceutique n'accepteront pas que cette nécessaire régulation se fasse aux dépens de certains malades qui auraient besoin d'un médicament qu'ils ne pourraient pas avoir dans une logique de rationnement. Ça, c'est inacceptable. Donc, les logiques d'impact budgétaire régulé auxquelles je faisais référence tout à l'heure, qui consistent à dire « regardons si le système peut se payer un médicament » mais en considérant ses coûts, mais en considérant également les économies qu'elle génère, s'inscrit dans ce cadre-là. Et moi, pour rejoindre la pointe peut-être d'optimisme, pardonnez-moi, de Claude Le Pen tout à l'heure, j'ai envie de dire que je suis assez surpris de voir qu'au fond, ce qui a l'air de nous opposer autour de cette table, c'est que chacun procède de ses propres considérants sur la logique du prix et du financement. Mais que la notion de juste prix, c'est probablement la synthèse de tous ces considérants. C'est ça, au fond, qu'on veut dire. Donc, je crois qu'on n'est pas si loin de pouvoir dégager une solution de synthèse.
Merci beaucoup, Éric Bazeillac, Claude Le Pen et Jean-Paul Vernon pour cette discussion qui se poursuit, comme chaque jour, sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Demain, nous vous proposerons une émission en partenariat avec le journal La Croix. La France a-t-elle un rang à tenir ?